Après vous avoir jasé de tous ces employés-là, essentiels au bon fonctionnement du club, faudrait quand même parler de ceux qui en profitent. Les fameux sports, comme disait Higgins. C'est le surnom que donnaient les guides aux membres du club. L'origine vient du mot « sport », en anglais, là, pour « chasse sportive », contrairement aux Autochtones qui, eux autres, pratiquaient la chasse plutôt comme mode de vie. L'écart entre les deux cultures amenait une espèce d'incompréhension immense là, chez les guides Abenaki. Pavaner un panache plutôt que de donner de l'importance à la viande chassée, pour eux, ça avait aucun sens. Ils ont même décidé d'inventer une danse, la danse du caribou. Un peu pour se moquer de nos sports. C'est certain que pour nos sports, l'idée de ramener le trophée qu'on pouvait installer sur le mur représentait quelque chose de cérémonieux, de raffiné, d'épicurien. Ça rappelait la noblesse de l'ancien régime, là, tu sais. Ben oui, les clients qui fréquentaient le club étaient définitivement tous bien fortunés. Si vous regardez à la liste, là, vous allez trouver des politiciens, des banquiers, des riches industriels, parfois même là, de la noblesse anglaise. C'était un beau petit groupe intime de gens riches puis privilégiés qui aimaient se retrouver dans la nature ou se sauver de la ville, hein, on va se le dire. Ça a commencé de façon bien modeste, avec une cinquantaine de membres. Puis au fil des années, on a vu jusqu'à 300 membres actifs. Cotisation annuelle, 135$. Pour vous donner une idée, là, en argent aujourd'hui, là, ça fait à peu près 2000. C'était quand même une bonne somme là, pour l'époque. Là. C'est ce qui fait que les chalets avaient tout le luxe et le confort possible. Il manquait absolument à rien. Nous avons su recréer l'atmosphère particulière qui s'entoure des gens de la haute extraction aux besaces bien remplies. On utilise bien sûr l'appellation sport depuis le début, mais soyons francs, c'était quand même un peu péjoratif. L'appellation officielle donnée aux membres là, était monsieur. Ces messieurs étaient accompagnés de leurs dames. Il était à noter, bien sûr, qu'il n'y avait aucune femme qui était membre officielle là, sur la liste des membres du club. Ces dernières fréquentaient seulement en tant qu'invité. Mais si vous fouillez le moindrement, vous allez trouver des perles. À la fin de la saison de chasse, on pouvait lire dans les journaux de la Nouvelle-Angleterre une multitude d'articles sur les différents exploits de la bourgeoisie locale. Ce qui fait que vous allez trouver, entre autres, en 1903, un article qui nous parle de la meilleure personne au fusil. Une personne qui, à elle seule, aurait tué officiellement un ours puis un orignal. Comprendre ici que « officiellement », c'est le mot important dans la phrase, parce que, on avait un quota, hein. Fait que l'article laisse sous-entendre que la personne aurait peut-être bien tué un autre orignal qui aurait été attribué à un autre chasseur. Nous tenons donc à féliciter officiellement Mme Stewart de New York d'avoir battu tous ces messieurs à la chasse lors de cet automne de 1903. Puis, outre les exploits de chasse, il y avait d'autres manières de laisser sa trace au club. Certains ont eu le droit de pouvoir se construire leur propre camp de chasse privé sur le terrain. C'est sûr que c'était pas un privilège donné à tout le monde. Là. On pense entre autres à M. Roberts, propriétaire d'un chemin de fer en Pennsylvanie. Pour vous donner une idée, quand il venait au Club Laurentien, il venait à bord de son wagon personnel. Il amenait avec lui son médecin, son cuisinier, puis ses domestiques. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Bien sûr, nous parlons ici des domestiques de monsieur qui ont tous les droits et les privilèges de venir séjourner au club. Un autre couple là, bien connu qui avait son chalet privé, on pense à Monsieur puis Madame Clark, des fameuses Bin Clark. C'était des clients bien réguliers du club, là, principalement là, entre 1930 puis 1960. Eux autres, là, comme ils n'étaient pas propriétaires de chemin de fer, ils n'avaient pas leur propre wagon, mais on voulait quand même arriver avec Klaus, donc on prenait l'hydravion personnel pour arriver directement sur le lac des Cinq. Pas besoin de défricher sentier, d'arriver de par le bois, puis de se casser la tête avec tout le voyagement quand t'atterris directement sur ton lac. Avec le temps, tous les guides, sans exception, les connaissaient. On pourrait dire tant de leur personne que de par le bin. Parce que oui, en partant en expédition de chasse puis de pêche, en plus, le bin aussi faisait le voyage. C'était pas mal un incontournable sur le menu des guides dès qu'ils s'éloignaient du camp de base. Puis laissez-moi vous dire que Mme Clark était réputée pour être toute qu'un personnage. Imaginez-vous donc, là, qu'elle a financé l'ensemencement de certains lacs, mais comme c'était un peu loin, les truites ont fait le voyage en avion. Rien de moins. Sans ça, on pourra parler de ses croyances particulières, parce que, je sais pas si vous savez, là, mais de manger des croûtes de pain, ça améliore la chevelure. Au point où c'est que madame demandait au guide d'en faire des réserves. Je veux pas partir de rumeurs, là, mais semblerait que la mode des sandwichs pas de croûte partirait du club laurentien, tout ça juste pour laisser les croûtes pour madame. Après le décès de son mari, quand elle partait sur le lac en canot, elle demandait toujours au guide d'attacher un deuxième canot vide en arrière, juste pour que l'homme de son époux puisse l'accompagner. Puis leur chalet, là, situé au lac des Cinq, c'est un des rares chalets que le parc national a conservé. D'ailleurs, il sert encore aujourd'hui pour les employés qui ont besoin de se rendre en arrière-pays pour une couple de jours. Maintenant, une famille dont on pourrait difficilement passer à côté, les Kennedy. C'est comme dans John F. Kennedy, 35e président des États-Unis. Ses parents étaient des habitués du club. De 1920 à 1930, ils venaient tellement souvent qu'ils avaient leur propre canot puis leur propre aviron gravé à leur nom. Un pour monsieur, un pour madame. Soi-disant, madame était d'abord et avant tout une amatrice de pêche. Une petite anecdote qui fait bien sourire, c'est la fois où c'est que madame n'avait pas pêché pendant les trois premiers jours de son voyage. Puis tout d'un coup, la quatrième journée, elle décide de partir avec son guide pour rattraper le temps perdu. Puis ça tombe bien, parce que cette journée-là, ça mordait. Le quota était à 20 truites par jour, puis elle se disait, « Ça veut dire que mon quota est à 80 truites, j'ai pas pêché les trois autres jours. » Bien sûr, son guide, lui, il a dit que c'était pas de même que ça marchait, mais elle a quand même fait à sa tête, puis elle a ramené 80 truites au chalet. Monsieur Kennedy, qui était bien by the book, pour lui, ça passait pas. Imaginez donc, madame qui arrive suite à sa pêche miracle, toute contente, puis monsieur, lui, qui regarde ça, puis que plutôt que de la féliciter pour l'exploit, commence à diffaire un sermon, il va même la dénoncer à direction. Résultat, 100 piastres d'amende pour madame. Madame était aussi réputée pour être quand même assez excentrique. Dans son cas, elle, c'était pas mal plus de par le linge. Imaginez-la, là, un pantalon d'étoffe, là, bien solide, en dessous de sa jupe. Pas des leggings, là, non, une grosse paire de culottes, là. Puis avec un grand chapeau à bord rond qu'elle servait pour accrocher ses appâts. Pas besoin de coffre de pêche ici, là. Elle avait tout ça à portée de la main. Elle avait aussi son guide préféré, François Garceau. À sa fête, à Noël, puis à Pâques, elle y envoyait un cadeau. 5 piastres US. Puis elle apportait à son cousin Freddy des vêtements neufs à chaque fois qu'elle venait séjourner au club. Les deux Kennedy avaient quand même une bien bonne réputation auprès des guides. Ils n'étaient pas trop exigeants, toujours un bon pourboire, en dollars US, du nouveau linge, puis si jamais vous tombiez malade, on raconte même qu'ils vont vous faire soigner. Des clients de même, n'importe quand. Fait que souvenons-nous de quelques-uns d'entre eux autres. Monsieur puis Madame Clark, propriétaire de la compagnie des fèves au lard Clark. Monsieur Cleveland, un docteur. Les frères Goss, des industriels de Waterbury aux États-Unis. Les frères Hamilton, des banquiers. Les Kennedy, hommes d'affaires et figures politiques états-uniennes bien influentes. Monsieur Mars, confiseur. R.G. Beaumont, président du conseil de la Shawinigan Water and Power Company. Monsieur Robert, propriétaire du chemin de fer en Pennsylvanie. Monsieur Sharp, avocat.